peregrino y váyate con Dios. Bon chemin pèlerin, Dieu te donne la main. Santiago, donne-nous du courage et de l'amour dans nos bagages. Parmi le chemin sous le ciel.
Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis à 12h35 sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, et vous avez bien raison. Alors Jean-Yves, en selle pour 25 minutes ?
En selle pour 25 minutes.
Alors aujourd'hui, le mot trousquin. Alors tous les cavaliers le savent, le siège d'une selle est limité à l'avant par une partie relevée, le pommeau, hein, et on peut s'y cramponner, et à l'arrière par une sorte de petit dossier, le trousquin.
Et au milieu, je pose le siège.
Et au milieu, il y a le siège, absolument. Il vaut mieux s'asseoir sur le siège que sur le pommeau, le trousquin, je suis d'accord avec toi.
Surtout pas sur le trousquin.
Et surtout pas
sur le trousquin. Parce que ça risque d'endommager le dos du cheval.
Tout à fait. Alors ce mot est relativement récent puisqu'on le voit apparaître vers la fin du XVIIe siècle comme un terme technique d'hypologie avec la définition précise d'arcade postérieure relevée de l'arçon de la selle. Bon, là encore, on y comprend un peu quelque chose. Mais alors, trousquin est formé du verbe trousser et du suffixe d'origine picarde quin, trousquin. Le sens premier de trousser signifie charger un bagage ou une charge quelconque sur le dos d'une bête de somme en l'entourant de cordes. On parle alors au XVIe siècle d'attacher en trousse, autrement dit de disposer les bagages sur la croupe du cheval. Alors ce sens précis d'entourer avec des cordes n'est plus utilisé de nos jours. On ne dit pas on attache nos bagages en trousse, mais sauf en cuisine, dans l'opération qui consiste à replier les pattes d'une volaille en les liant au moyen d'une ficelle avant de la mettre à cuire. On dit on trousse une volaille.
C'était peut-être les peaux qui couvraient la selle qui étaient retroussées, qui étaient relevées sur le trousquin.
Qui était peut-être relevé sur le trousquin, ou ça pouvait être aussi l'habit du cavalier que l'on retroussait, enfin qu'on mettait sur le trousquin et qui était par là même retroussé. Donc effectivement.
Retroussé. Ouais.
Alors trousse prend ensuite trousse de trousquin, donc trousse troussé prend ensuite le sens d'un contenant. C'est une valise au XIVe siècle, une valise. Puis un carquois un siècle plus tard, ça je ne le savais pas. Enfin un haut de
carquois, c'était pour mettre des flèches.
Pour mettre les flèches, voilà, c'est ça. Donc un contenant, c'est ça un carquois. Et enfin, d'un haut de chausses court et relevé à la fin du XVIe siècle et porté par les pages jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Alors, si ce vêtement a disparu, il a donné l'expression toujours utilisée « être aux trousses de quelqu'un ».
Ah oui.
Et autrement dit, suivre de près, voire poursuivre une personne.
C'était pour le confort du cavalier, tout ça, quand même, alors.
C'était pour le
confort. Comme les étriers chaufferettes, parce que l'hiver, on avait des étriers où on mettait de la braise pour se chauffer les pieds.
Certaines fois, en hiver, à Salmiège, on aimerait bien avoir des étriers chaufferettes, je peux te le dire. Alors, on retrouve également trousse dans un certain nombre de mots d'expression, tels que le trousseau de la mariée, ça c'est sympa,
oui.
Le trousseau de clé, le trousse-queue. Cette lanière de cuir qui sert à relever la queue d'un cheval est bien évidemment le trousquin. Alors, ami cavalier, si la galanterie est de mise dans l'équitation, il convient néanmoins de rester toujours courtois avec nos compagnes pour ne pas nous donner cette image lourdingue et vulgaire de trousseur de jupons.
Ah bah oui.
Alors, au début du XXe siècle, les ethnologues ont étudié chez les peuples aborigènes sibériens et d'Asie centrale un ensemble de pratiques religieuses, mystiques, mais aussi divinatoires et médicales, qu'ils ont regroupées sous le terme de chamanisme. Le mot chaman a été emprunté à la langue des Tungus, un peuple nomade installé en Sibérie. Alors, le chaman peut être indifféremment un prêtre ou une prêtresse. Alors là, de ce côté-là, ça peut être aussi bien une femme qu'un homme. C'est à partir de ce mot que les ethnologues ont forgé le terme chamanisme, autrement dit, l'ensemble des croyances et des pratiques magico-religieuses. Interdit et parfois réprimé avec énergie pendant plus d'un demi-siècle par les autorités soviétiques, les pratiques chamaniques ont retrouvé une certaine vigueur depuis une trentaine d'années. Elles deviennent néanmoins de plus en plus marginales dans la mesure où elles sont directement liées à un mode de vie traditionnel qui tend à disparaître, celui de nomades chasseurs et pêcheurs, mais également éleveurs de rennes ou encore de chevaux. Par la sédentarisation d'une part et par la réticence des enfants à revenir affronter les dures conditions d'existence traditionnelles dans la toundra après avoir évidemment découvert lors de leurs études en ville le modernisme et les perspectives d'un métier mieux payé et moins rude, surtout moins rude, le chamanisme semble aborder une nouvelle période de repli, tout au moins dans ses formes traditionnelles. C'est-à-dire qu'il est reparti et, de nouveau, eh ben, les jeunes n'ont pas tellement envie de s'engager là-dedans. Enfin, ça veut dire vivre dans la yourte, dans la neige, dans le froid, etc. Alors, à la différence de beaucoup de pratiques concernant la divination ou l'art de guérir les maladies, organiques ou psychologiques, le chaman utilise une méthode qui n'appartient qu'à lui. Il rentre progressivement dans une transe pendant laquelle son esprit se détache de son corps pour entreprendre des ascensions célestes ou des incursions dans les régions souterraines infernales. Les chamans sont des élus et comme tels ont accès à une certaine zone de sacré qui demeure inaccessible aux autres membres de la communauté. De fait, c'est cette faculté d'accès au sacré, aux esprits qui les sépare du reste de la communauté. Séparés mais indispensables, car ce sont eux seuls qui, au moyen de leur transe, peuvent guérir les maladies, accompagner les morts au royaume des ombres et servir de médiateur entre les hommes et les dieux. En fait, le chaman veille sur l'âme de la communauté car lui seul peut la voir, en connaître tant sa forme que sa destinée. Au cours de sa transe, dans son voyage vers les esprits, le chaman peut prendre différentes formes animales, en particulier celle du loup ou du cheval. Même lorsque ce dernier n'est pas présent au cours de la cérémonie chamanique, il est symboliquement là par une touffe de poils blancs qui est brûlée et par une peau de jument blanche sur laquelle le chaman s'assied. Brûler des poils de cheval invoque l'animal magique qui viendra alors transporter le chaman dans l'au-delà. Et en 1870, un voyageur russe, Radloff, rapporte un texte tatar qui fait traduire et publier dans un journal de la ville sibérienne de Tomsk. Bon, ce texte décrit la cérémonie du sacrifice du cheval et de l'ascension du chaman au ciel. Et c'est ce que le messager du cheval va vous conter maintenant après une pause musicale. Into the night, Carlos Santana et sa guitare.
It was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And a voice in his rang like the angels sing. Tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And the voices rang like the angels sing. It was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And the voices
Nous sommes dans les monts de l'Altaï, une région située en Asie centrale à la frontière de la Russie, de la Mongolie et de la Chine. Mais suivons cette cérémonie du sacrifice du cheval qui peut durer entre 2 ou 3 jours. Le premier soir est dédié à la préparation du rite. Le chaman, ayant choisi une place dans un pré, y installe une yourte nouvelle à l'intérieur de laquelle il installe un jeune bouleau dépouillé de ses branches basses et sur le tronc duquel il ménage 9 degrés. Le feuillage terminal du bouleau qui porte à sa cime un drapeau sort par le trou de fumée de la yourte. Et on sait qu'une yourte au sommet a un trou pour
évacuer la fumée.
La fumée, absolument. Une petite palissade en branches de bouleau est élevée autour de la yourte et à l'entrée de cette dernière est planté un bâton de bois, toujours de bouleau, muni d'un nœud fait en poil de cheval. On choisit ensuite un cheval à la robe claire que le chaman confie à un participant nommé pour l'occasion Bachtukan Kichsi, c'est-à-dire celui qui tient la tête de l'animal, du cheval. Alors le chaman agite un rameau de bouleau sur le dos du cheval pour forcer l'âme de ce dernier à sortir et pour en préparer son envol. Voilà, alors on voit bien le geste en train de frotter le dos du cheval pour que l'âme du cheval sorte. Il répète le même geste sur celui qui tient la tête du cheval car l'âme de cette personne devra accompagner l'âme du cheval durant tout son voyage céleste. Ensuite, donc le chaman bénit le cheval et avec l'aide de quelques assistants, il le tue en lui brisant la colonne vertébrale de manière à ce qu'aucune goutte de sang tombe à terre. Donc ça doit être assez costaud.
Ça doit être un peu cruel aussi quand même.
C'est un peu cruel. Alors le cheval est alors dépecé, sa peau et ses os sont exposés, suspendus à une longue perche. Après avoir procédé à des offrandes aux ancêtres et aux esprits protecteurs de la yourte, on prépare la chair de l'animal et on la mange cérémoniellement, le chaman recevant les meilleurs morceaux. Le soir du deuxième jour, s'accompagnant de son tambour, le chaman offre la viande du cheval au maître du tambour qui personnifie la puissance chamanique de sa famille. Il s'adresse ensuite au maître du feu, puis découpe les restes de la viande pour les distribuer aux assistants qui représentent les esprits. Il s'agenouille alors devant l'esprit de la porte de la yourte, pour lui demander de le guider. Battant son tambour, il entre en convulsion. Il murmure des mots inintelligibles en imitant le bruit du tonnerre, puis s'approche d'une couverture qui représente l'âme du cheval sacrifié. Accompagné dans sa transe par celui qui tenait la tête du cheval, il parvient au sixième ciel, puis qui est celui de la lune, puis au septième ciel, celui du soleil. Épuisé, il laisse alors tomber son tambour, puis murmure que les dieux ont accepté le sacrifice. Le chaman s'écroule enfin au sol, épuisé. Après quelque temps dans cet évanouissement, il reprend conscience et semble s'éveiller d'un sommeil profond. Il salue alors les gens présents, comme après une longue absence, comme s'il revenait longtemps après. Une grande fête clôture le cérémonial pendant laquelle d'énormes quantités de boissons alcooliques sont consommées. Donc, à la fin de la cérémonie, je pense qu'il y a, oui, à part les chevaux, il n'y en a plus beaucoup qui tiennent sur leurs deux pattes. Alors Jean-Yves, il me semble qu'il te serait dur d'approuver le destin de ce malheureux cheval sacrifié, promu messager des hommes, toi, le messager du cheval.
Mais je trouve que c'est un peu cruel comme histoire. Là. Donc, en tant que défenseur de la Ligue pour la protection du cheval, je pense qu'il faudrait quand même un peu revoir ça, parce que c'était certainement dans une époque où des gens mangeaient de cheval et le trouvaient comestible. C'était plutôt une action de chasse qu'une vénération. Hein.
C'est vrai que te connaissant...
C'est pas trop mon truc. Non.
C'est pas trop ton truc, d'accord. Mais écoute, confidence pour confidence, bon, moi je regarde ça avec des yeux plutôt d'un ethnologue, mais enfin bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous choque, on peut pas dire le contraire. Alors, animal psychopompe par excellence, le cheval est quasiment toujours dans les mythes des peuples qui le possèdent et l'utilisent, celui qui peut faire l'aller-retour entre le monde des vivants et le monde des morts. Ça, c'est important.
Oui, c'est un transport, c'est une élévation.
Mais il fait l'aller-retour.
Presque toutes les religions ont parlé de ça, d'ailleurs.
Absolument. Alors, c'est lui que chevauchent les Valkyries pour amener les guerriers morts au Valhalla. C'est le cheval aux 8 jambes d'Odin. C'est la jument du prophète Mahomet.
Oui.
Qu'elle aussi, elle est allée au ciel.
Les anges étaient à cheval aussi, dans la religion catholique.
Les anges étaient à cheval, absolument. Et c'est également la légende de l'Ankou en Bretagne, qui transporte les âmes des morts dans une charrette tirée par un vieux cheval. Et quand les gens l'entendaient, ils se barricadaient dans leur maison parce que voir l'Ankou, c'était au fond se faire annoncer sa prochaine mort.
Santiago, sur le parvis de la cathédrale à Compostelle, est à cheval.
Absolument, Jean-Yves, tout à fait. Oui, ça, tu le connais puisque tu y allais à cheval.
Tu l'apprécies.
Alors, à lire pour en savoir plus, Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase du philosophe et anthropologue Mircea Eliade aux éditions Payot, L'Encou, donc, une BD de Fournier dans les aventures, dans la série Les aventures de Spirou et Fantasio, et c'est chez Dupuis. Alors, Jean-Yves Chevalet, au fond, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est et est-ce que c'est une allure naturelle?
Mais c'est pas une allure d'abord, un geste.
Hein.
C'est un geste, c'est une attitude. Le cheval, quand il chevale, passe un postérieur par-dessus l'autre. C'est comme quand on est à cheval, exactement pareil, quoi.
Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a quand même des airs, si je puis dire, qui favorisent
la pirouette, par exemple.
La pirouette, oui.
Par exemple, la pirouette, oui.
Oui.
Il doit chevaler l'épaule en dedans.
L'épaule en dedans aussi.
Oui.
En revanche, dans l'appui, évidemment, il ne...
Non, il croise. Là.
Il croise,
il
c'est ça.
Il passe au-delà.
Il passe au-delà, voilà.
Chevaler, c'est rester sur la même piste.
C'est rester sur la même piste. Alors, un cheval qui chevale, si je puis dire, finalement, il laisse combien de pistes au sol?
Mais un cheval qui chevale, ça peut être un cheval très, très fatigué, qui oui. a du mal à marcher et à compter le pas.
Ah oui, ça peut être...
Il passe les antérieurs un par-dessus l'autre, ou les postérieurs un par-dessus l'autre aussi.
Un par-dessus l'autre aussi, voilà, c'est cela. Donc, ça peut être un signe de fatigue.
Oui, c'est pas un signe de bien portant.
Voilà. Et donc, au pré, est-ce qu'un cheval peut chevaler?
Il peut peut-être se mettre dans cette attitude, il écarte bien les antérieurs, il écarte bien les postérieurs, il peut les rapprocher aussi. Hein.
Il peut les rapprocher aussi, mais enfin, bon, c'est pas spécialement...
Non.
C'est vrai que quand on observe les chevaux au pré, on les voit pas tellement chevaler, en fait.
Non, pas du tout. Non. Oui. Le cheval, quand on leur demande, avec l'impression de la jambe, quand il lève le membre, quand il est au soutien, et non pas quand il est à l'appui.
Et techniquement, comment tu fais quand tu mets par exemple un cheval en épaule en dedans, donc il va chevaler? Est-ce que tu te soucies de savoir s'il chevale ou pas, ou est-ce que c'est en le mettant dans une position générale, la position de l'épaule en dedans, donc soit à main droite, soit à main gauche, que le cheval, je dirais, automatiquement le cheval des postérieurs? Parce qu'il faut bien dire que le cheval cheval des postérieurs.
Mais par l'attitude du corps du cavalier, le cheval se met dans une attitude aussi également qui correspond à la demande. Donc il croise devant. Il fait passer un antérieur par-dessus l'autre et il chevale derrière, il passe sur la même piste.
Il passe sur la même piste, ouais. Voilà, c'est cela. Donc c'est en fait en demandant l'attitude générale que, bon, quand elle est réussie, le cheval ne peut pas faire autrement que chevaler.
C'est un assoupissement extrême.
C'est un assoupissement.
Dans les dedans, le cheval donne tout. Il donne la bouche, il donne la nuque, il donne le dos, il monte ses épaules, il abaisse une hanche. Donc il se prépare à l'école.
Il se prépare à l'école.
À l'ère d'école.
Alors le dicton de la semaine, Jean-Yves, c'est le suivant. Être bien à cheval, c'est d'abord être bien avec soi-même.
Absolument. Absolument, parce que pour que le cheval, il faut qu'il vous trouve agréable sur son dos et content d'être sur son dos. Parce que si vous êtes content et lui, ça va se ressentir à travers votre position et votre corps, vous serez dans une attitude de réception et de transmission, et vous serez heureux, vous serez content, et comme il est anesthésiste, il va très très bien le sentir et il sera content de vous porter.
C'est pour ça que tu dis toujours à tes élèves, mais souriez.
Absolument, tiens-toi droit et souris.
Ouais, c'est ça, c'est l'expression de Jean-Yves Bonnet, je l'ai dit à tout le monde, faites-en vos profits, tiens-toi droit et souris, absolument. C'est vrai que bon, déjà un cavalier qui fait la gueule, c'est pas formidable.
Non, puis quand il fait la gueule, il est pas content, il est contrarié, il dégage une adrénaline d'opposition. Il n'est pas avec son cheval, il est un peu contre son cheval.
Un peu contre son cheval.
Ça inquiète son cheval, voilà.
Et même physiquement, je suppose que contracté dans sa tête, les muscles
absolument.
Sont contractés aussi,
absolument.
Donc il y a moins d'aisance.
La position, il faut être ouvert, il faut être droit, ouvert, la position d'équilibre, la position des arts martiaux, ouvert, droit, et puis le centre de gravité en avant, c'est l'attitude d'offrande, l'attitude de réception.
Voilà, c'est cela. Donc c'est exactement la même chose que dans les arts martiaux en
réalité.
Tout à fait
pareil.
Il y a une grande similitude.
D'ailleurs, l'équitation est un art martial. Le cheval est un animal noble. Qui anoblit celui qui se consacre à lui, celui qui le soigne, celui qui le sert bien, voilà.
Celui donc, qui le sert bien, voilà.
Ça fait appel à toutes les qualités humaines.
Ça fait appel à toutes les qualités humaines. Donc, il faut donner le conseil aux auditeurs qui nous écoutent d'éviter d'être grognon à cheval si on veut pas que le cheval devienne grognon lui
absolument,
aussi.
Absolument, il faut être content, il faut être quatre pattes sur son cheval et ça se retransmet à travers son soi. Donc le cheval le ressent très bien.
Le cheval le ressent très bien. Alors c'est avec plaisir que Jean-Yves Bonnet, le messager du cheval, et moi-même vous donnons rendez-vous mardi et samedi prochain, même heure, 12h35, et même adresse pour vagabonder en votre compagnie sur les chemins de cette incroyable alliance nouée au cours des siècles entre un animal peureux et celles et ceux qui s'y sont passionnés, qui continuent à s'y passionner aujourd'hui, non pour s'en servir,
mais pour le servir.
Sur CFM Rodez 107.9 et sur CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2. Vous pouvez également réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci de votre fidélité.
À la semaine prochaine. Et bravo à nos chevaux.
Merci Jean-Yves. Ciao, ciao.
Les chevaliers, vaillants et fiers sur leurs coursiers, en grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey! La vie est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey! Et souris, ton cheval est ton ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Hey, hey, confiance que tu as perdue, ce en toi tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. Hey, en passant par sa mière, tu langues d'eau au rouergue. Après la mer, les salins, les marais, les garrigues, le plateau du Larzac, la couvertura de Mione, les Vézous, Salbiège, milieu du sel. Patrie de Béranger, de l'Andorre, capitale du rouergue Rodez. Entrez dans la légende de la route du sel. Entrez dans la légende de la route du sel.